Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, chers amis auditeurs. Nous continuons notre étude de ce trimestre concernant les prophéties, le don de prophétie. Et aujourd'hui, c'est la semaine du 14 au 20 février 2009, la huitième leçon. Et cette semaine a pour titre « L'autorité des prophètes ». Voici un premier verset qui nous est proposé. « Ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. » 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. Les questions clés. Pourquoi Moïse n'avait-il pas envie de devenir le prophète de Dieu? De quelle autorité étaient revêtus les prophètes d'Israël, même ceux qui n'ont pas écrit de livres bibliques? Existe-t-il une différence entre l'autorité des prophètes canoniques et celle des autres prophètes? Eh bien, nous allons voir tout ceci cette semaine. Tout au long de la Bible, on retrouve ce thème. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu parle à son peuple et ce dernier accepte ou rejette ses messages. Bien sûr, lorsque le peuple rejette les paroles des prophètes, ce ne sont pas ces derniers qu'il rejette, mais celui qui les a envoyés. Affirmer que l'on parle au nom de Dieu est quelque chose de très grave, car si c'est vrai, on est le porte-parole du Créateur de l'univers, ce qui n'est pas une mince responsabilité. Certaines personnes reçoivent l'autorité nécessaire pour parler au nom du patron d'une société, du président de la République ou du premier ministre. Mais quand c'est au nom du Seigneur, quelle lourde responsabilité! Malheureusement, une grande partie de l'histoire biblique raconte comment Dieu a parlé par l'intermédiaire de ses prophètes et comment les gens l'ont rejeté. Nous devons faire très attention de ne pas commettre cette même erreur. Commençons avec le dimanche 15 février 2009, et ce dimanche a pour titre « Le prophète porte-parole de Dieu ». Lisons le dialogue entre Dieu et Moïse. Nous verrons comment Dieu fait appel à ses prophètes et comment ces derniers interviennent. Nous avons un premier texte qui nous est donné dans le livre de l'Exode, chapitre 4, nous lirons les versets 10 à 16. Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je ne l'ai jamais eue, et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien, maintenant, va, je ferai de toi, je serai avec toi quand tu parleras. » « Je t'indiquerai ce que tu devras dire. »« Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il est éloquent. Lui, ne l'est-il pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. » Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole, et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. Conformément aux dispositions prises par Dieu, Moïse devait être littéralement un Dieu, entre guillemets, pour Aaron. Et Aaron devenir le porte-parole ou le prophète de Moïse. Nous avons ici une définition précise de la relation intime existant entre Dieu et tous ses prophètes. Ils étaient ses porte-paroles. En outre, comme pour Moïse et Aaron, Dieu leur enseignait ce qu'ils devaient faire. Moïse a été en quelque sorte prophète malgré lui. Suivant son propre témoignage, Ellen White n'était pas disposée non plus à répondre aux premiers appels du Seigneur. « Dans ma seconde vision, dit-elle, environ une semaine après la première, le Seigneur m'a montré par quelles épreuves je devrais passer et me dit que je devrais aller raconter aux autres ce qu'il m'avait révélé. Il m'indiqua que mon travail rencontrerait une forte opposition et que j'aurais le cœur déchiré d'angoisse, mais que sa grâce me suffirait pour tout traverser. Cette vision m'a plongé dans un trouble extrême, car elle me disait que je devais aller trouver les gens et leur présenter la vérité. Ma santé était si mauvaise que je souffrais constamment et que chacun pensait que je ne vivrais pas longtemps. Je n'avais que 17 ans. J'étais petite et fragile et peu habituée à fréquenter du monde. J'étais naturellement si timide et si effacée qu'il m'était douloureux de rencontrer des inconnus. Pendant plusieurs jours, poursuit-elle, et tard dans la nuit, je priais pour que ce fardeau me soit retiré et confié à quelqu'un de plus apte à le supporter. Mais la tâche à laquelle j'étais appelé ne changea pas, et les mots de l'ange ne cessaient de résonner à mes oreilles. « Fais connaître à d'autres ce que je t'ai révélé. » Ces citations sont tirées d'un livre d'Ellen White qui a pour titre « Premiers écrits ». Ne sommes-nous pas tous appelés, quelles que soient nos responsabilités dans l'Église, à faire connaître ce que Dieu nous a révélé? Eh bien, réfléchissons à cette citation, à ces questions. Et nous allons aborder maintenant la journée du lundi, le lundi 16 février 2009. Et là, il s'agit de l'autorité de la parole faite chair. Un premier verset nous est proposé, Matthieu 28, 18. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Dans Matthieu 21, verset 23, « Tandis que Jésus enseignait, les grands prêtres et les anciens lui ont demandé, « De quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité ?» Jésus a répondu à cette question à la façon des rabbins, c'est-à-dire en posant à son tour une question. « Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des humains ?» Dans les discussions rabbiniques, la contre-question était censée indiquer la réponse à la question posée. Les grands prêtres et les anciens ayant refusé de répondre, Jésus ne leur a pas répondu non plus. Puisqu'il refusait de reconnaître la puissance de Dieu présente dans le ministère de Jean, il était inutile de parler de la sienne qui lui venait également de Dieu. Voyons maintenant quelques textes concernant l'autorité de Jésus. Nous commençons avec un texte tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 28 et 29. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Un autre texte tiré de l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 21-22. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Et encore un texte tiré de l'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 25 à 27. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. et il a accordé au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Christ détient l'autorité suprême parce qu'il est notre Créateur. Il est notre Rédempteur. Il est à la fois notre dernier recours et le critère absolu d'après lequel toute vie sera jugée. C'est en lui que l'autorité divine se concentre et qu'elle trouve sa finalité. Voilà pourquoi les évangiles déclarent que ses enseignements stupéfiaient les gens. Il enseignait comme quelqu'un possédant une grande autorité. Tout au long des évangiles, nous constatons que le Christ possédait une autorité plus qu'humaine. Il pardonnait les péchés, il chassait les démons, revendiquait son droit légitime de juger le cœur de l'homme. Il accordait la vie éternelle. Cette autorité qu'il a exercée au cours de son mandat terrestre lui venait du Père. Tout ce qu'il accomplissait, y compris tous les miracles, était fait dans un esprit de dépendance et de coopération avec lui. Mais en même temps, il jouissait d'une autorité absolue. Il pouvait la déléguer à ses disciples, et c'est par elle qu'à la fin des temps, il jugera tous les hommes. Et voici de quoi méditer maintenant. Nous vivons à une époque où il est courant de remettre en question l'autorité. Quel doit être notre rapport avec celle-ci ? Réfléchissons-y. Mardi 17 janvier 2009, et là nous parlons encore d'autorité, c'est l'autorité de la parole écrite. Comparons deux incidents qui montrent deux manières fondamentales de réagir face à la parole écrite de Dieu, même si aujourd'hui ce ne se fait pas de façon aussi radicale. Et tout d'abord, dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, chapitre 22, nous lirons les versets 10 à 13. Puis il ajouta, « Le grand prêtre Hilka m'a donné ce livre, et il le lut au roi. Dès que le roi Josias eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il convoqua le grand prêtre Hilka, Ahikam, fils de Gaphan, Akor, fils de Mikaya, le secrétaire Shaphan et Azasha, l'un de ses ministres, et leur dit « Allez, consultez le Seigneur pour moi et pour le peuple de Juda sur le contenu de ce livre qu'on vient de trouver. En effet, nos ancêtres n'ont pas obéi aux commandements qui y sont écrits et par conséquent, la colère du Seigneur contre nous doit être très grande. » Un autre texte tiré du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 36, les versets 22 à 24. Comme on était au 9e mois de l'année, le roi occupait son logement d'hiver et se tenait devant un brasero allumé. Au fur et à mesure que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec un canif et les jetait au feu. Il continua ainsi jusqu'à ce que le rouleau soit complètement consumé. Le roi et tous ses officiers avaient bien compris les messages notés sur le rouleau, mais ils n'avaient montré ni crainte, ni signe de tristesse. Aujourd'hui, on peut rejeter la parole de Dieu sans la brûler en public, comme l'a fait ce roi. Il suffit de la ridiculiser, de l'ignorer, de dire qu'elle est démodée, ou de l'interpréter de façon à lui enlever toute valeur historique et toute autorité. Pourtant, personne ne peut impunément mépriser l'autorité des Écritures. Tôt ou tard, il faudra supporter les conséquences de ce rejet. Le caractère de Dieu, sa volonté, ses projets pour l'humanité, le sens de l'existence humaine, sont présentés dans la parole écrite sous une forme qui les met à la portée de tous, quelle que soit l'époque. Si on les rejette, il n'y aura peut-être pas de conséquences immédiates, mais on perdra, c'est certain, la vie éternelle. Jésus a tiré l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. C'est ce que nous devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde comme la parole d'un Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. C'était une citation d'Ellen White tirée du livre « Parabole de Jésus ». Ellen White, sa vie durant, a exalté la parole de Dieu. À propos de la controverse entre la science et les Écritures, elle a écrit qu'il fallait avoir, dit-elle, une ferme confiance dans la divine autorité de la parole de Dieu. Celle-ci ne peut être jugée par des prétendues notions scientifiques. Les connaissances humaines sont toujours sujettes à caution. En 1909, lors de la dernière session de la conférence générale à laquelle elle avait assisté, à la fin de son dernier sermon, elle a pris la Bible, l'a ouverte et l'a présentée sur ses mains tendues. « Mes frères et mes sœurs », a-t-elle déclaré, « je vous recommande ce livre ». Réfléchissons donc à notre propre attitude à l'égard des Écritures. Pouvons-nous poser les questions suivantes? Combien de temps est-ce que je passe à les étudier? Est-ce que j'essaye sérieusement d'en suivre les enseignements? Quelle est mon attitude vis-à-vis des passages qui me dérangent ou dont les idées me déplaisent? Eh bien, voici encore de quoi réfléchir à la fin de cette journée du mardi 17 février. Cette étude de la semaine par le mercredi 18 février 2009, et là, il s'agit de l'autorité de la parole orale. Autrefois, quand il y avait peu de documents écrits et que la plupart des gens ne savaient pas lire, la transmission orale était très importante. Comment les gens réagissent-ils à la parole orale de Dieu? Eh bien, nous allons encore vous proposer quelques textes. Jérémie, chapitre 38, les versets 2 à 4. Voici ce que déclare le Seigneur. Quiconque restera dans cette ville mourra des suites de la guerre, de la famine ou de la peste. Mais quiconque sortira pour se rendre aux Babyloniens y gagnera la vie sauve. Jérémie disait aussi, voici ce que le Seigneur déclare. Il est décidé à livrer cette ville à l'armée du roi de Babylone, et celui-ci s'en emparera. Après l'avoir entendu, ses officiers dirent au roi Sédécias, « Nous réclamons la peine de mort contre ce Jérémie, car ce qu'il dit démoralise complètement les soldats et la population qui restent dans la ville. Au lieu de chercher à améliorer la situation du peuple, cet individu cherche plutôt à l'aggraver. » Nous continuons avec un texte tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 11. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses ?»« Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. » Nous continuons avec le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, versets 51 et 52. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. » Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? » demandait-il. Nous continuons avec le verset 66 de ce même chapitre 6. « Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. » La parole de Dieu, qu'elle soit annoncée oralement ou qu'elle soit écrite, a une double fonction. Paul dit qu'elle ressemble à une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et qu'elle juge des sentiments et des pensées du cœur. D'après ce contexte, quand Paul évoque ici la parole, il fait référence au message qui était prêché à la fois à l'ancien Israël et aux chrétiens. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle agit comme le scalpel du chirurgien. Elle pénètre soit pour guérir et restaurer, soit pour révéler la présence d'une maladie mortelle qui entraînera une perdition éternelle. Mais si elle n'est pas reçue avec foi par celui qui l'écoute, elle ne lui sert à rien. Même si tous les membres n'étaient pas prêts à accepter l'autorité prophétique d'Ellen White, l'Église, dans son ensemble, écoutait ses conseils et en tirait des bienfaits. L'exemple suivant illustre ce fait. L'organisation de l'Église entre 1863 et 1909 était resté pratiquement inchangé. Alors que l'œuvre se développait dans différents domaines, plusieurs associations, missions médicales, études de la Bible, le sabbat, liberté religieuse, sociétés de diffusion, etc., s'étaient donc formées pour promouvoir les divers ministères. Il s'agissait d'associations autonomes, représentés par des groupes indépendants de l'organisation de la conférence générale et qui entraient parfois en compétition les unes avec les autres. Par ailleurs, toutes les décisions importantes concernant l'œuvre mondiale étaient prises par un petit nombre de membres de la conférence générale située à Battle Creek. La veille de la session de la conférence générale de 1901, Ellen White a rencontré les dirigeants les pressant d'entreprendre des changements radicaux dans le fonctionnement de l'Église. Contrairement à l'habitude, un vaste comité d'environ 75 personnes s'est donc réuni le lendemain, dès le début de la session, pour réorganiser la structure de l'Église. Le comité de la Conférence générale s'en est trouvé considérablement élargi et les diverses associations sont devenues des départements de la Conférence générale. Des unions et des fédérations ont été créées pour permettre aux dirigeants sur le terrain de prendre des décisions sans avoir à attendre l'accord de Battle Creek. Cette réorganisation de l'Église, inspirée par Dieu, a été acceptée à l'unanimité et a depuis bien résisté au temps. Mis à part quelques modifications et certains agrandissements, la structure de l'Église adventiste du septième jour est restée la même jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous poursuivons, c'est le jeudi 19 février, Et nous avons là l'autorité des prophètes non canoniques. Voyons un petit peu ces textes qui nous sont proposés aujourd'hui. En dehors des prophètes canoniques, tels que Ésaïe et Amos, les Écritures citent un certain nombre d'autres prophètes dont les livres ne font pas partie du canon. Que dit-on de ces prophètes et de leurs écrits dans quelques-uns de ces textes que nous allons maintenant vous lire? Nous allons tout d'abord vous proposer un texte dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, le chapitre 29, nous lirons le verset 29. Les actes du roi David, les premiers et les derniers, sont écrits dans les actes de Samuel le voyant, dans les actes de Nathan le prophète et dans les actes de Gad le voyant. Un autre texte tiré du deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, tout d'abord le verset 29. Le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, cela est écrit dans les actes du prophète Nathan, dans la prophétie d'Ahïa de Silo et dans les visions du voyant Yédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Un autre texte tiré du deuxième livre des Chroniques, chapitre 12, nous lirons le verset 15. Les actes de Roboam, les premiers et les derniers, sont écrits dans les actes du prophète Shemaïa et du voyant Ido pour y être recensés. Il y eut toujours des guerres entre Roboam et Jérusalem. Le livre des Chroniques mentionne au moins 5 livres prophétiques différents rédigés par des prophètes non canoniques, Gad, Nathan, Ahïa, Shemaïa et Ido. À l'époque de David, les Écritures se composaient des livres de Moïse. Cependant, à aucun moment David n'a remis en question l'autorité de Nathan. Il savait que celui-ci était un prophète et que sa parole faisait autorité, même s'il n'y avait aucun livre de lui dans la Bible. Imaginons que des archéologues découvrent aujourd'hui un livre de Nathan. Le rajouterait-il à la Bible? Non, il resterait un livre inspiré en dehors du canon. Et si jamais il comportait quelques déclarations d'ordre théologique, celle-ci resterait une déclaration inspirée et digne d'autorité en dehors du canon. Le canon est simplement une série de livres qui, sous l'inspiration de Dieu, ont été réunis pour être la règle de vie et de foi du peuple de Dieu, par laquelle tout le reste doit être mesuré. Il contient tout ce que l'être humain a besoin de connaître pour être sauvé. Tous les écrits inspirés des prophètes ne se trouvent pas dans la Bible. On sait par exemple que Paul a écrit des lettres inspirées qui ne font pas partie du Nouveau Testament. Si nous trouvions ces lettres aujourd'hui, elles ne feraient pas pour autant partie de la Bible. Elles continueraient d'être des lettres inspirées et faisant autorité, mais en dehors du canon. On pourrait comparer l'autorité d'Ellen White à celle des prophètes non canoniques. Les messages inspirés qu'elle a transmis à l'Église ne sont pas à rajouter au canon. Ces écrits ne sont pas une nouvelle Bible, pas plus qu'ils ne possèdent l'autorité de celle-ci. En définitive, pour nous, seule la Bible doit faire autorité. Nous arrivons au vendredi 20 février, et là nous avons encore quelques citations à vous proposer pour aller plus loin. En 1982, une commission spéciale de la Conférence générale a préparé une déclaration sur les rapports entre la Bible et Ellen White. Voici tout d'abord les affirmations. Premièrement, nous croyons que les Écritures sont la parole révélée de Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous croyons que le canon des Écritures se compose seulement des 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Troisièmement, nous croyons que les Écritures sont le fondement de la foi et l'autorité ultime pour toute question de doctrine et de pratique. Quatrièmement, nous croyons que les Écritures sont la parole de Dieu exprimée dans la langue des hommes. Cinquièmement, nous croyons, d'après les Écritures, que le don de prophétie s'est manifesté dans l'Église chrétienne après l'époque du Nouveau Testament. Sixièmement, nous croyons que le ministère et les écrits d'Ellen White sont l'expression du don de prophétie. Septièmement, nous croyons qu'Ellen White était inspirée par le Saint-Esprit et que ses écrits produits de cette inspiration sont applicables et font autorité notamment pour les adventistes du septième jour. Huitièmement, nous croyons que les écrits d'Ellen White permettent la compréhension avec une urgence prophétique des enseignements des Écritures et de leur application dans la vie spirituelle et morale. Neuvièmement, nous croyons essentiel l'acceptation du don prophétique d'Ellen White pour la nourriture spirituelle et l'unité de l'Église adventiste. Enfin, dixièmement, nous croyons que l'usage fait par Ellen White d'écrits d'autres auteurs et l'aide de secrétaires peut être mis en parallèle avec certains écrits de la Bible. Voici maintenant une série de démentis. Premièrement, nous ne croyons pas que le degré d'inspiration des écrits d'Ellen White soit différent de ceux des Écritures. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White s'ajoutent au canon des Saintes Écritures. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White sont comme les Écritures, le fondement et l'autorité suprême de la foi chrétienne. Nous ne croyons pas que ces écrits puissent être utilisés pour fonder une doctrine. Nous ne croyons pas que l'étude des écrits d'Ellen White puisse remplacer l'étude des Écritures. Nous ne croyons pas que les Écritures puissent être comprises uniquement à l'aide des écrits d'Ellen White. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White donnent le sens complet des Écritures. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White soient essentiels à la proclamation des vérités de l'Écriture pour la société au sens large. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White aient été inspirés uniquement par la piété chrétienne. Nous ne croyons pas que l'utilisation faite par Ellen White d'écrits d'autres auteurs et l'aide de secrétaires démente l'inspiration de ces écrits. Et ces remarques sont tirées d'un ouvrage en anglais qui concerne l'inspiration et l'autorité des écrits d'Ellen White, un article du journal Le Ministry du mois d'août 1982. Le texte déclarait en conclusion que le fait de comprendre correctement le caractère inspiré et l'autorité des écrits d'Ellen White permettait d'éviter les deux extrêmes suivants. Tout d'abord, considérer que ces écrits ont une valeur identique au canon de l'Écriture, et deuxièmement, les considérer comme une simple littérature chrétienne. Eh bien voilà de quoi réfléchir à tout ceci, et nous terminons ainsi cette semaine. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient. Jesus is Lord.